Septième session du colloque, une session consacrée aux métiers et groupes professionnels au prisme de l'intersectionnalité. À travers trois communications, on va évoquer tour à tour les univers professionnels du cinéma, de la série télévisée et de la musique. Avec d'un côté, en Skype, on va intervertir l'ordre de la session. Jérémy Vachet. Doctorant à la School of Media and Communication à l'Université de Leeds, qui va soutenir le 27 novembre, qui sera très prochainement docteur, et dont la thèse a porté ou porte sur l'expérience de la précarité et de l'insécurité à l'ère néolibérale, en partant du cas des musiciens indépendants, un cas qui va nous livrer tout à l'heure. Donc sans plus attendre, on va commencer.
Donc la présentation que je vais donner aujourd'hui est issue en partie d'un travail de thèse effectivement que je viens de rendre. Plus particulièrement, c'est un extrait de une partie de chapitre pour être exact, auquel j'ai essayé de donner des éléments de contextualisation et de méthode aussi pour qu'on puisse comprendre d'où je viens et où je vais et où je nous amène rapidement dans cette présentation. Donc en préalable, je vais définir quelques termes pour que vous puissiez vraiment voir dans quel cadre j'utilise des termes comme néolibéralisme, précarité et classe sociale, identité, anxiété, qui peuvent notamment un terme comme anxiété qui peut être très étrange utilisé dans un contexte sociologique. C'est justement ce qui m'intéresse, donc on reviendra sur ça. Mais disons que, voilà, ici le plan de la présentation. Donc, l'approche théorique utilisée dans cette présentation considère les influences multiples qui menacent ou enrichissent notre manière d'être au monde à l'ère néolibérale. Adaptée d'une thèse de doctorat, donc, cette présentation tente de décrire l'impact que peut avoir le néolibéralisme sur le bien-être individuel, relation à soi et aux autres, et selon la classe sociale et le genre. L'un des arguments principaux de cette présentation est que les individus sont tiraillés entre les injonctions institutionnelles, les tentatives individuelles de répondre positivement à ces injonctions, le désir de mener une vie bonne et la nature irrationnelle des individus. Le néolibéralisme est bien plus qu'un projet de réforme économique. Comme Margaret Thatcher l'a exprimé, l'économie et la méthode, l'objectif est de changer l'esprit des gens. Il aurait été difficile de l'inventer autrement. En d'autres termes, le néolibéralisme est un mode de gouvernance qui concerne l'État et un système qui produit des sujets, des citoyens, des comportements et une nouvelle organisation du social. Donc ici, Wendy Brown qui a travaillé sur le néolibéralisme. Le projet néolibéral est donc bien plus qu'économique. Son objectif est de créer un sujet autonome, capable de se prendre en main et entrepreneur. Bien que la précarité se réfère généralement aux conditions de travail dans l'économie post-fordiste, caractérisée par l'insécurité et la flexibilité, la conception retenue ici est étendue à tous les aspects de la vie quotidienne, c'est-à-dire que la précarité définit une relation incertaine au monde et aux individus. La méthode utilisée pour mesurer la précarité et le bien-être emprunte à l'approche des capacités, en anglais capabilities, de Sen, reprise par Martha Nussbaum. Donc on emprunte ici à la philosophie morale dans une liste de capacités centrales à l'épanouissement individuel. Donc pour préciser par rapport à l'approche des capabilities et le recours aussi à la sécurité ontologique, donc alors que la sécurité ontologique donc développée par l'antipsychiatre Erdi Leng est définie comme un état et une relation au monde, l'approche des capacités, donc capability approach au singulier et au pluriel selon les auteurs, est un cadre normatif permettant d'appréhender les capacités nécessaires au bien-être et à l'épanouissement individuel. En définissant les capacités les plus importantes à réaliser pour une vie bonne, cette approche fournit un cadre normatif à l'évaluation de la justice sociale et de la qualité de vie. Sans pour autant développer une approche paternaliste, ce cadre normatif est utilisé pour identifier des pratiques et comportements qui viendraient empêcher l'épanouissement individuel. Donc, comme le rappelle Esmond Roche, il faut adopter une posture pluraliste et non relativiste quant à la vie bonne. Bien qu'il existe plusieurs manières de mener une vie bonne, toutes ne le sont pas. Donc cette approche est de plus en plus utilisée en sciences sociales lorsque les questions de justice sociale et d'épanouissement individuel sont abordées. Donc, il s'agit donc de mesurer ici la précarité objective, d'une part, et d'autre part, les commentaires des individus sur leurs conditions de vie et de travail permettent aussi de définir la précarité perçue. Donc ici, on peut penser par exemple sur aux commentaires à l'ouvrage collectif qui de Pierre Bourdieu, paru en 1993 pour la première fois, et la misère du monde. Merci. Et paru une autre fois dernièrement en 2007. Où effectivement il y a des commentaires sur la précarité, parce qu'il s'agit pas, il s'agit d'identifier cela de manière objective, mais aussi de manière subjective. L'identité et l'individualisation. Donc l'approche développée dans ce travail emprunte aussi à certaines théorisations contemporaines de l'individu, donc, par exemple Axel Honneth ou Alain Renberg. Dans ces approches, les individus sont soumis à une injonction paradoxale. D'une part, celle d'être eux-mêmes, capables de se définir comme des sujets autonomes et engagés dans des relations de sens avec eux-mêmes, les autres et le monde. Et d'autre part, limités à des styles de vie standardisés et contraints par des normes sociales, bien qu'éclatées. En d'autres termes, c'est une vie où rien ne semble interdit, mais rien n'est véritablement possible, pour citer Alain Renberg. Cette recherche montre donc que pour supporter cette injonction paradoxale, les individus développent divers mécanismes de défense et stratégies. Donc, bien que les industries culturelles et créatives aient des barrières à l'entrée invisibles, les travailleurs créatifs tentent à être violemment rappelés de la persistance des distinctions sociales une fois ces industries intégrées. Ainsi, en dépit des discours méritocratiques, seulement quelques participants, participantes à cette recherche sont issus de la classe populaire ou moyenne-basse. Donc là, je me réfère notamment à une étude assez récente qui a pu être menée en Grande-Bretagne, donc qui a été publiée en 2016. Si l'identification du milieu d'origine dans cette recherche emprunte effectivement à une conception bourdieusienne de la classe sociale, elle s'inscrit surtout dans ses développements les plus récents, prenant aussi en compte le genre et le race. D'autre part, cette recherche entend analyser l'importance du genre, de la classe sociale et de la race dans le processus d'individualisation. Car, comme le rappelle Atkinson, ceux-ci ont jusqu'à présent été très peu considérés dans les théories dites de l'individualisation. Notre approche de la classe sociale a pu prendre en compte le type d'activité qu'ils avaient en parallèle de leur pratique musicale, sachant qu'aucun des individus, aucun des participants ne vivait uniquement de sa pratique. Cette question est cruciale car des individus peuvent avoir deux activités situées différemment dans les relations sociales de production, faisant qu'ils peuvent appartenir, et ce de manière parfois contradictoire, à deux catégories sociales distinctes. Donc là, le travail de Eric Olin Wright sur les classes sociales et a été justement l'identification de la position dans ces classes sociales a été très importante pour moi. De plus, le milieu social d'origine fut considéré car une analyse seule de la classe sociale par les places occupées déconsidérerait l'importance de l'origine sociale à la base de ces distinctions. Donc, formé à la sociologie et aux sciences de l'information et de la communication, ma compréhension de la psychologie est relativement limitée. Il a donc fallu construire des modes d'évaluation de l'anxiété. Partant de formulaires déjà existants et reconnus, j'ai construit une échelle accessible qui demandait des compétences qui ne me demandaient pas de compétences particulières en psychologie. Donc, tout d'abord, j'ai utilisé des définitions, diagnostics et littérature existantes en psychologie. Et ensuite, je me suis inspiré donc, notamment de l'échelle de Taylor en 1953 ou le Manifest Anxiety Scale beaucoup plus récent. Et donc, ces analyses m'ont aidé à peaufiner ce questionnaire afin de le rendre plus précis. L'échelle va de 1 à 9, donc de non anxieux à très anxieux. Donc 9 étant effectivement très anxieux et incapable d'avoir une vie, de mener une vie courante de manière décente. Les questions de durée sont aussi cruciales et ont été prises en considération. Êtes-vous anxieux maintenant ? Qu'en est-il d'aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci et en général ? Parce qu'on peut prendre l'état On peut poser une question à quelqu'un, demandez-moi maintenant si je suis anxieux, il y a de grandes chances pour que je vous dise 8. On en parlera dans quelques heures, j'espère que ce sera descendu. L'articulation théorie et méthode, donc j'ai utilisé une argumentation de type interprétation de premier plan. Donc en anglais, ça donne foreground interpretative argument, donc de Alford, qui, afin d'articuler théorie et méthode, particulièrement en ce qui concerne les subjectivités personnelles. Donc cette théorie est utilisée pour comprendre le sens que les choses ont pour les individus, dans un sens qui donne à comprendre comment la société fonctionne au niveau macro. Merci. Donc, cette présentation s'appuie sur une recherche de terrain menée par observation participante et entretien semi-directif parmi 32 musiciens âgés de 25 à 37 ans, vivant dans des villes à la fois connues pour leur style de vie néo-bohème et onéreux, donc Brooklyn, San Francisco, Oakland, Portland, Stockholm et Paris. Donc, le recrutement des participants s'est inspiré de la méthode dite de l'échantillonnage boule de neige. Donc, durant les entretiens, une écoute attentive a permis de se concentrer sur la voix des participants ainsi que sur les expressions faciales et corporelles. Un échantillon de musiciens âgés de 25 à 37 ans ayant au moins 3 ans de pratique ont été choisis pour éviter le biais de l'inclusion de nouveaux arrivants, donc les étudiants ou les amateurs par exemple, ainsi que pour refléter le tournant néolibéral de l'entrepreneuriat, renégociant le recours à la protection sociale. Je m'inspire de certains écrits qui ont pu britanniques, qui ont parlé justement d'un shift qui a pu avoir après le New Labour et le tournant entre les industries culturelles, vers les industries créatives et vers la politique néolibérale par rapport à l'économie créative, et en quoi de plus en plus il y a ces injonctions néolibérales à devenir entrepreneur et à avoir moins recours à la protection sociale en un sens. C'est une chose qu'on observe à la fois depuis fin 90 en Angleterre, mais qui est tout à fait observable dans d'autres, dans, à l'échelle malheureusement mondiale. Et donc cette déclaration s'appuie sur d'autres travaux. Le choix des villes cherche à élaborer une étude parallèle de plusieurs villes et non une étude comparative. C'est-à-dire que l'on cherche à observer les similarités en termes de style de vie et de conditions de travail à la manière des ethnographies multisites. De plus, cette recherche s'inspire de l'approche longitudinale, car entre 2008 et 2016, 250 participants ont été observés, ce qui permet d'analyser les fluctuations dans les styles de vie et conditions de travail au fil des années. Cette méthode cherche à réduire deux biais. Premièrement, le présentisme qui ne prendra en compte qu'un moment de la vie des participants, alors que ces industries fonctionnent sur des hits et par projet, et donc les moments d'exposition et de rémunération fluctuent grandement. Deuxièmement, cette méthode cherche à réduire le biais, poussant les individus à commenter leur présent, sous couvert donc, de cette injonction à la réflexivité qui peut parfois être biaisée ou biaisante, ainsi que l'illusion rétrospective faisant que les individus oublient souvent ce qui a bien pu leur arriver par le passé ou façonnent leur mémoire afin de correspondre aux attentes sociales ou pour réduire la douleur de certains événements désagréables. Sachant qu'on parle d'anxiété ici dans cette présentation, c'est important effectivement de prendre cela en compte. Donc, 3 résultats importants. Donc, la précarité affecte tous les aspects de la vie. 2. Alors que la musique offre des opportunités uniques d'exploration individuelle, soumis à une telle précarité, les résultats montrent plutôt que les conditions de vie et de travail des participants provoquent de l'anxiété, une souffrance en termes de reconnaissance et des comportements narcissiques. La précarité dans les industries musicales affecte différemment les individus selon leur milieu d'origine et le genre. Et là, vous allez penser, enfin, il va parler de milieu d'origine, de classe et de genre. La précarité donc affecte différemment les individus selon leur milieu social d'origine et leur genre. Donc, si on considère l'anxiété comme un fait social, l'anxiété ou même l'estime de soi ou le ressentiment de reconnaissance peuvent être analysés via des variables sociales, donc comme le genre et la classe sociale. Des études récentes ont montré que les femmes étaient plus anxieuses que les hommes Des résultats montrent aussi que les attentes de confiance en soi et de détermination faites aux femmes est un fardeau pour les participantes. Pour des recherches menées en cultural studies et féministes, pour notamment Gill et Orgade, cette culture de la confiance en soi est une injonction faite aux femmes qui, de manière paradoxale, produit du doute, un manque de confiance, de la honte et de l'insécurité. Donc l'argument de Rose Gill et Orgade est que cette culture de la confiance en soi n'est pas seulement genrée, elle est aussi soi-disant féministe. Pour Héloïse, dans l'extrait que vous voyez ici, cette tension entre ses propres doutes et la démonstration forcée de confiance en soi et de détermination entraîne de l'anxiété. De plus, les résultats indiquent que les femmes doivent travailler sur elles-mêmes pour réprimer des signes de fatigue, de douleur et d'ennui. À l'inverse, les participantes déclarent devoir montrer en toutes circonstances de l'enthousiasme et un engagement dans l'activité, ce qui fait écho aux recherches notamment menées par Harley Anschild sur les hôtesses de l'air. Cette tension entre sentiments brimés, réprimés et l'expression forcée entraînerait de l'anxiété. Lors des observations, ce fut le cas d'Ingrid, une musicienne suédoise de 33 ans, voyageant en France pour un enregistrement quelques jours seulement après avoir accouché de son premier enfant. En tant que musicienne professionnelle, Ingrid sentait qu'elle se devait de montrer dans le milieu de l'industrie musicale qu'elle était engagée et apte au travail, alors même qu'elle tentait de récupérer de son accouchement. Entre les prises, Ingrid devait utiliser un extracteur de lait et appeler son partenaire pour vérifier comment allait le nouveau-né. De plus, les résultats indiquent que le milieu social d'origine influe grandement dans un contexte où les rétributions liées à la musique sont faibles. Comme le suggère Kim Allen, un milieu social d'origine moyenne ou supérieure constitue un filet de sécurité matérielle et psychologique qui aide économiquement et ontologiquement. Les résultats suggèrent l'existence d'une anxiété spécifique à la classe populaire et à la petite classe moyenne, donc difficulté à se sentir légitime, angoisse de l'autodidacte qui ne serait pas suffisamment bon et peur exacerbée de l'échec. Les individus issus des classes moyennes, quant à eux, expriment une angoisse due au risque que de déclassement social. Ainsi, ils ont tendance à ressentir le besoin de s'assurer de la conservation de leur position sociale, ce qui induirait de l'anxiété. Cependant, les résultats indiquent que les participants issus de la classe moyenne dans sa frange haute et de la classe supérieure développent des manières de supporter la précarité. Ces stratégies d'adaptation et ces mécanismes de défense aident à réduire l'anxiété induite par l'absence de sécurité ontologique. Les résultats indiquent que la résilience spécifique aux participants issus de classes moyennes et au-dessus est acquise par le partage d'informations avec leurs pairs, famille et amis. Inversement, les participantes issues d'un milieu social populaire qui ne pourraient donc pas affronter la précarité seule développeraient des préférences adaptatives en refusant ce qui leur est refusé. C'est-à-dire qu'il ou elle préférait abandonner ou se blâmer plutôt que de considérer leurs souffrances et échecs relatifs comme le résultat de conditions systémiques. Pour le dire autrement, comme pour Bourdieu, les dispositions envers la précarité sont incorporées, y compris au sens premier du terme, celle du corps, au travers des processus de socialisation. J'aimerais passer là. J'aimerais maintenant avancer un petit peu plus par rapport à ce que j'avais prévu, et j'aimerais croiser cette analyse sur justement genre et classe, et parler d'une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est cette performance du cool. Performance du cool qui serait à la fois genrée et socialement située. Donc cette performance du cool, cruciale pour obtenir des opportunités professionnelles qui ont du sens, semble aussi liée à la distance, à la nécessité. Donc selon Mathilde, l'anxiété a un effet négatif sur ses interactions de tous les jours, ce qui, selon elle, réduit ses opportunités professionnelles. Puisque l'anxiété a cette particularité de rendre les individus peu disponibles aux autres, elle peut aussi les empêcher d'être employés sur des projets dans un contexte où la grande majorité des opportunités professionnelles est liée au capital social. Ainsi, la représentation de soi est cruciale pour avoir une chance d'être employé sur des projets. Pour la majorité des participantes issues des classes populaires ou de la petite classe moyenne, se sentir empêché de jouer au cool par anxiété tend à culpabiliser encore plus les individus qui comprennent le décalage entre ce qui est attendu d'eux ou d'elles et leur comportement. Mathilde, issue de la petite classe moyenne, décrivit alors, lors d'un entretien, la pression constante qu'elle se met pour faire bien et comment cette pression la rend anxieuse. Elle est, comme elle dit, trop anxieuse pour traîner avec des gens comme il le faudrait, c'est-à-dire avoir l'air cool et relaxé. Mathilde, dont le surnom est le shérif, se considère comme une obsédée du contrôle alors qu'elle décrit son collègue comme le cool. Donc, durant l'entretien, elle fit remarquer à plusieurs occasions que les deux avaient tendance à reproduire des rôles sociaux et genrés. En effet, l'anxiété due à sa précarité est normalisée comme un comportement typiquement féminin de perte de sang-froid et de contrôle de soi. Donc la peine est donc double. L'origine de son anxiété, la précarité, est niée. Et Mathilde se retrouve enfermée dans un rôle où l'anxiété ne serait pas le symptôme d'un mal-être structurel, mais une disposition féminine niant toute possibilité de revendiquer l'origine de ce mal. Pour conclure, je vous rappelle donc les résultats et j'aimerais parler d'une limitation qui est très importante et de manière, mais en même temps de manière assez rapide. Donc cette étude, cette présentation et la recherche a de nombreuses limitations, comme vous l'avez sûrement remarqué, l'absence de noms blancs, à l'exception en général dans l'échantillon de participants. Cette absence s'explique par le fait que la construction de l'échantillon, comme je vous l'ai décrit en tout début de présentation, est effectuée par boule de neige. Donc, de manière assez classique, ça reproduit les inégalités qui sont observées. Et comme l'ont montré des études récentes dans des pays où les statistiques par groupe ethnique sont autorisées, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, les individus non blancs sont fortement sous-représentés dans l'ensemble. Il faut rappeler qu'ici, le style de musique dont je parle est catégorisé d'indie, par exemple. De plus, et une chose qui effectivement me paraît importante, c'est que cette présentation a divisé le genre en deux catégories, hommes et femmes, alors que la construction sociale du genre en tant que continuum s'avère beaucoup plus complexe et riche. Je vous remercie.